Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à chacun d'entre vous et particulièrement aussi pour les personnes qui sont de passage. Nous vous saluons et c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas vu certains d'entre vous. Alors j'en ai vu certains hier et dans la semaine, mais certains d'entre vous, je ne vous ai pas revus depuis au moins 2 semaines et je me réjouis d'être là avec vous ce matin pour réfléchir ensemble sur ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et comme cela a déjà été dit par Samuel un peu plus tôt dans le culte, depuis plusieurs semaines, nous étudions le livre d'Exode et nous sommes parvenus au pied de la montagne du mont Sinaï, au moment où Dieu se manifeste à son peuple et lui adresse de vive voix 10 paroles. 10 comme autant de doigts de mes mains. 10 paroles. Et nous avons jusque-là abordé les 7 premiers commandements que Dieu adresse à son peuple désormais libre. En effet, c'est ce que Dieu dit en préambule, avant même de dire ces 10 paroles, ces 10 commandements, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Dieu veut donc la liberté pour son peuple. Il est clair qu'un peuple libre est un peuple qui obéit aux commandements de Dieu. Et concernant le commandement qui nous intéresse ce matin, est libre celui ou celle qui ne vole pas. Est libre celui ou celle qui ne porte pas un regard envieux sur ce que l'autre possède et qui s'en empare. Est libre celui ou celle qui ne garde pas pour lui un objet qu'il a seulement emprunté. Est libre celui ou celle qui rembourse ses dettes, ce qu'il doit à son prochain ou à une banque. Est libre celui ou celle qui paie justement ses impôts en rendant à César ce qui est à César. Et nous pourrions multiplier les exemples de ce que signifie ne pas voler, et j'aurai l'occasion d'en évoquer encore. Ce que je peux souligner d'emblée, c'est que ce commandement est en lien avec le fait d'aimer son prochain. L'apôtre Paul le dit en Romains chapitre 13, versets 8 à 10, et il reprend quelques-uns des commandements que nous avons déjà vus et que nous verrons dans les semaines à venir. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Celui qui aime les autres, nous dit Paul, a accompli la loi. Et je pourrais m'arrêter là et vous dire bonne semaine. Parce que tout est résumé là. Les dimanches précédents, il était question de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre d'adultère, et aujourd'hui de ne pas commettre de vol. Et en tout cela, Dieu nous commande, en fait, d'aimer notre prochain. C'est à la fois par égard pour Dieu et pour notre prochain que nous respectons ses commandements. Et avant de poursuivre, parce que je ne comptais pas m'arrêter là, venons-en à nous. As-tu déjà volé? As-tu déjà pris ce qui n'était pas clairement à toi? As-tu déjà rendu à son propriétaire ce qui n'était pas à toi? Et dans notre société actuelle, est-il si facile de ne pas enfreindre ce 8e commandement de Dieu? Oui, cette parole adressée à Israël nous est adressée ce matin personnellement. Tu ne commettras pas de vol. Voyons plus précisément ce que cela signifie. Vous remarquez que ce commandement est court, qu'il n'y a pas de complément après le mot « vol ». Donc, envers qui ne dois-je pas commettre de vol? Dans le contexte du peuple d'Israël, cela commence déjà par son compatriote, par sa famille. Et dans la Bible, il est aussi question de ne pas commettre de vol envers les autorités ou envers Dieu. Oui, mes amis, il est même possible de voler Dieu. Et je veux commencer d'abord par « Tu ne commettras pas de vol envers ton prochain. » Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et vraiment, il y a peut-être une certaine frustration à ne pas pouvoir développer davantage, mais je veux au moins démarrer par cette illustration qui date des années 30. Vous voyez sur l'image, comme moi, une dame, et de l'autre côté, quelqu'un qui semble être le boucher. Et les deux ont les yeux rivés sur une balance. Mais vous remarquez quand même un détail au centre de l'image. Alors, je ne parle pas de la volaille, mais du fait que chacun pose son doigt sur ou sous la balance. Le commerçant veut faire une bonne affaire en gonflant le prix. La consommatrice veut faire une bonne affaire en diminuant le coût et la valeur réelle du produit. Le monde, je pense, depuis les années 30, n'a pas tellement changé. Et chacun veut avoir sa part de profit, quitte à voler l'autre. Le 8e commandement de Dieu a été donné pour protéger les biens de chacun, pour défendre le droit de propriété. Et Dieu reconnaît ce qui est à chacun, précisément. Il reconnaît ce qui est à toi et à toi, parce que cela vient de lui. Et en tant que chrétiens, nous voulons bien reconnaître que ce que nous possédons nous vient de Dieu, jusqu'à l'argent que nous utilisons pour acquérir ces biens. Mais il est très clair que pour Dieu, ce qui est à l'autre n'est pas à nous. Et le Code civil définit ainsi la propriété, article 544. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Je retiens de cette définition le droit de jouir. Le propriétaire, celui à qui appartiennent les choses qu'il a en sa possession, a le droit de jouir, de disposer de ce qu'il possède. Et il a ce droit de manière, alors ici il nous est dit de manière absolue, mais pour dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a ce droit. Et ce droit est reconnu pour chacun, chacune. Vous connaissez peut-être l'adage des cours de récré. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Bon, apparemment, vous avez fréquenté les mêmes cours de récré que moi. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Les enfants qui disent cela ont déjà compris ce qu'est la propriété. Ce qui a été donné à l'autre est maintenant à l'autre. Et si je tente de le reprendre, je suis en train de commettre un vol. Notre Dieu est un Dieu juste qui ne laisse pas passer le péché qui consiste à prendre ou à garder ce qui ne nous appartient pas. Et si tout me vient de Dieu, pourquoi voudrais-je encore prendre ce qui est à l'autre? Si c'est Dieu qui me donne mes possessions, pourquoi je voudrais encore quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre? Pourquoi vouloir faire de bonnes affaires, quitte à faire perdre de l'argent à l'autre, même un tout petit peu d'argent? Comme je le disais plus tôt, les exemples sont multiples. Je ne vais peut-être pas m'étendre particulièrement sur les vols qui sont flagrants, tels que les cambriolages, les braquages, les escroqueries en tout genre, ou les détournements de fonds. Ça nous paraît évident que ça enfreint le 8e commandement. Il est clair que piquer dans la caisse est condamné par le 8e commandement. Mais si la personne de la caisse m'a rendu trop de monnaie, comme ça m'est déjà arrivé personnellement, et que je m'en rends compte, est-ce que je rebrousse chemin pour rendre le surplus? Et si je repars avec ce surplus, est-ce que je suis en train de voler, alors que c'était une erreur du caissier? Oui, mes amis, si je ne restitue pas ce surplus, alors je suis en train de voler, parce que cet argent ne m'était pas dû. Donner, c'est donner, mais rendre, ce n'est pas voler. Enfin, dans ce cas, en tout cas. Et sans entrer dans tous les détails, j'aimerais amener mes frères et sœurs qui travaillent dans la gestion, dans les finances, dans le commerce, dans tout ce qui rapporte, à se poser des questions. Et je serais ravi d'en discuter avec vous par rapport à vos situations particulières. Dans quelle mesure mon travail contribue-t-il à générer un profit malhonnête au détriment du client? Quelle est l'éthique adoptée par mon entreprise? Est-ce que les méthodes sont toujours justes? Et je ne dis pas que tout cela est simple et qu'il faudrait y répondre de manière catégorique, mais je pense qu'il est quand même préférable de ne pas faire l'autruche, de ne pas nier la réalité de procédés parfois douteux dans notre société. Est-ce que, en tant que chrétien, je dois fermer les yeux sur tout ça? J'ai peut-être tort, parce que je ne suis pas dans le milieu, mais je connais au moins ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Kevin DeYoung, un pasteur américain, commente ce commandement en disant aussi « La cupidité a des conséquences et personne n'en est à l'abri. Laissez-lui seulement du temps et vous verrez que nous devrons tous faire face à la tentation qui consiste à placer le profit au-dessus des personnes et des principes. » Autrement dit, parce que le cœur de l'homme est cupide, et s'il laisse cette cupidité s'alimenter progressivement, eh bien très vite il va être tenté de vouloir placer le profit au-dessus des personnes et des principes. Placer le profit au-dessus des personnes ou faire du profit au détriment des personnes conduit toujours à voler son prochain. Et ça, je pense que ça nous amène à réfléchir. Et vraiment, je réitère le fait que je serais ravi d'en discuter avec celles et ceux qui sont dans le milieu et qui peut-être rencontrent des défis sur le plan éthique. Je continue. Tu ne commettras pas de vol envers l'État. Alors, je serai un peu plus bref sur ce point. Dieu en parle aussi dans sa parole. Ce qui est à l'État, ce qui doit revenir à l'État, ne nous appartient pas. Et Jésus a bien enseigné qu'il fallait rendre à César ce qui est à César. Et bien sûr, à Dieu ce qui est à Dieu. Et tout à l'heure, je l'ai mentionné, l'apôtre Paul, en Romains chapitre 13, rappelle que les autorités viennent de Dieu et qu'à cause de leur position d'autorité, les chrétiens sont appelés par Dieu à se soumettre à elle. Et cela passe par le juste paiement des impôts. Je vous lis le passage en question, Romains 13, versets 6 à 7. C'est aussi pour cela, parce que Dieu a placé ses autorités, c'est pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il faut donc reconnaître que ne pas payer ses impôts ou mentir sur sa déclaration de revenus en vue de payer moins, c'est voler l'État. C'est désobéir à Dieu. Et vous le savez peut-être, l'État romain était loin d'être composé d'hommes justes et irréprochables. Et si nous attendons un État juste pour payer justement nos impôts, nous pouvons attendre longtemps. Au contraire, nous sommes tenus de suivre la législation du pays dans lequel nous nous trouvons, en tout cas en matière de fiscalité. Alors, je ne connais pas toutes les subtilités, et sans doute que certains d'entre vous ici seraient encore mieux qualifiés pour en parler. Je ne connais pas toutes les injustices probables aussi d'un tel système de taxation, parce que certains diraient qu'ils sont trop taxés. Mais je sais juste que si je dois quelque chose, même si c'est une amende pour un mauvais stationnement, il faut que je paye. Autrement, je suis en train d'enfreindre le 8e commandement. Alors, je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler de tout ça dans les prédications, mais là, le texte s'y prête. Donc je continue, et tu ne commettras pas de vol envers Dieu. Alors c'est un texte chez le prophète Malachi qui en parle. Malachi chapitre 3, versets 8 à 9. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, c'est le reproche de Dieu, pourtant vous me volez. Et puis vous demandez en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. » Dans ce texte, Dieu reproche à son peuple de ne pas donner ce qui lui est dû, à savoir les offrandes qu'il a commandées. Selon la loi dans le Lévitique, toute dîme, que ce soit les récoltes de la terre ou les fruits dans les arbres, que tout cela appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, verset 30. Et dans le livre des Nombres, nous trouvons cette déclaration de Dieu qui dit « Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. » Nombres chapitre 18, verset 21. « Je donne comme possession aux Lévites toute dîme. » Autrement dit, à l'époque de Malachie, ceux qui servaient au temple dépendaient de ces dîmes apportées par le peuple. Si les Lévites n'avaient pas de quoi se nourrir, eh bien, ils risquaient de quitter le temple pour subvenir eux-mêmes à leurs besoins et ainsi de délaisser leur service cultuel. Dieu avait prévu que le peuple, par ses dons réguliers, puisse pourvoir aux besoins de ceux qui le servent. Et je ne m'étendrai pas sur le sujet de la dîme ici, mais je soulignerai à partir de ce texte que pour l'Israélite, comme pour nous aussi, donner de ses biens dit quelque chose de son attachement à Dieu, dit quelque chose de sa fidélité à Dieu. Et inversement, ne rien donner ou donner moins que ce qu'exigeait la loi, c'est ne pas prendre Dieu au sérieux. C'est abandonner, négliger le culte qui devait être rendu à Dieu. Et je pense qu'à la lumière de ce texte, et de l'enseignement du Nouveau Testament, un chrétien, une chrétienne, est obligé de se poser des questions sur ce qu'il donne ou sur ce qu'il garde pour lui. Vous êtes-vous déjà demandé dans quelle mesure nous pouvons voler Dieu ? Ou pour le dire plus positivement, dans quelle mesure j'utilise mon argent pour soutenir des missionnaires, des œuvres chrétiennes, l'église locale ? En un mot, pour soutenir la cause de l'Évangile. Est-ce que je me soucie suffisamment de Dieu et de son royaume pour donner une partie de ce qui me vient de Dieu ? Le huitième commandement interdit tout vol, que ce soit à l'égard de son prochain, à l'égard de l'État ou à l'égard de Dieu lui-même. Et nous pouvons si facilement nous retrouver dans une de ces situations que j'ai mentionnées. Et si je me rends compte que j'ai volé, que dois-je faire ? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet ? Et là, je vais aborder un thème dont on parle très peu, je pense. Vraiment très peu. La restitution. Il faut d'abord revenir au texte de la loi de Moïse pour voir quelle est la justice à appliquer en cas de vol. Je vous lis quelques extraits. Alors, il faut se placer dans le contexte de l'époque, d'accord ? Exode chapitre 21, verset 37, « Si un homme vole un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. » Exode 22, verset 2 à 3, « Un voleur devra faire une restitution et s'il n'a rien, il sera vendu pour rembourser son vol. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, est encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. » Et puis le verset 6, il n'y aura pas le verset 8, mais le verset 6. « Si un homme confie à un autre la garde d'argent ou d'objets et qu'on les vole dans la maison de cette personne, le voleur fera une restitution au double dans le cas où on le trouverait. » Dans chacun de ces cas mentionnés, il est question d'une restitution qui va au-delà du simple fait de rendre ce qui a été pris. En un sens, si le voleur ne restitue que ce qu'il a volé, cela ne lui coûte pas grand-chose. Il ne rend que ce qu'il a pris. Il n'a pas vraiment payé pour ce qu'il a fait. C'est pourquoi nous avons au moins une restitution au double. Dans le cas d'un animal volé et encore vivant, le voleur devra rendre cet animal et en donner un autre qui lui appartient. Un commentateur souligne que le principe suivi ici est sans doute que le voleur subit ce qu'il a voulu faire subir. À savoir, il a privé son prochain de son bien, il devra lui-même être privé d'un de ses biens pour réparer le préjudice. Telle est la justice de Dieu. Et cela me fait penser à l'histoire de Zachée. Zachée, c'est cet homme qui était trop petit de taille pour pouvoir apercevoir Jésus à cause de la foule. Et il lui a même fallu monter dans un arbre. Et nous lisons maintenant la suite de ce récit en Luc chapitre 19, à partir du verset 5. « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans ce texte, il est question de restitution. Zachée dit que s'il a trop pris à quelqu'un, il est prêt à lui rendre 4 fois plus. Plus que ce que la loi prévoyait. Et cela nous conduit à réfléchir un instant sur cette question. Si un tel homme, reconnu par Jésus comme un véritable enfant d'Abraham, comme un authentique croyant, a agi de cette manière, combien d'autant plus devrions-nous penser à restituer ce que nous avons pu voler ? Peut-être au double, peut-être plus. Si j'ai volé, que dois-je faire ? Bien sûr, d'abord me repentir, demander pardon à Dieu, oui. Mais ensuite, restituer ce que j'ai volé, si cela est possible. Parce que j'ai bien conscience que dans certains cas, ce n'est pas possible. Dans des cas où peut-être la personne est décédée, je ne peux pas lui rendre ce qui lui appartenait. Je vous avoue que je n'ai pas de réponse toute faite sur cette question de la restitution, et particulièrement de la restitution au double. Mais je ne peux que constater, ici, dans le texte de Luc, l'approbation joyeuse de Jésus. Jésus approuve l'attitude, le comportement, l'intention de Zachée ici. Et d'une manière ou d'une autre, si je me rends compte que j'ai volé à mon prochain, comment puis-je réparer le tort que j'ai causé ? Pas seulement en lui restituant ce qui lui appartient, mais en réfléchissant à cette question par rapport à la loi de Dieu. Que le Seigneur nous aide à y voir clair. Je vous avoue, je ne peux pas vous apporter de réponse plus claire que ça, mais je pense qu'on n'est pas habitué à en parler et que ça mérite de pouvoir y réfléchir. Donc que le Seigneur nous aide à y voir clair et à faire ce qui est juste à ses yeux. Nous avons vu ce qu'il fallait comprendre de manière non exhaustive par le 8e commandement. Tu ne commettras pas de vol ni envers ton prochain, ni envers l'État, ni envers Dieu. Nous venons à l'instant de parler de la restitution, de la compensation nécessaire quand un vol a été commis. Et je voudrais terminer par quelques textes du Nouveau Testament pour aller encore plus loin dans notre réflexion. Parce qu'au bout du compte, si je ne dois pas commettre de vol, qu'est-ce que je dois faire alors ? En quelque sorte, se poser la question, c'est quoi le contraire de voler ? Alors, vous me direz peut-être ne pas voler, mais je pense qu'il y a une réponse peut-être plus complète que ça. Parce que respecter les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement éviter ce qui est interdit. Ce n'est pas seulement se dire, je n'ai pas volé, et penser qu'à partir de là, on ne s'en tire pas trop mal. Précisément parce que personne d'entre nous ne peut se vanter d'une justice personnelle devant Dieu. Nous ne sommes pas justes. Et sans doute que nous avons déjà enfreint ce 8e commandement, ne serait-ce qu'en regardant illégalement des séries ou des films en streaming, en portant atteinte aux droits d'auteur. La seule justice que nous pouvons faire valoir, c'est celle de Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, et dont la justice parfaite nous est comptée.
si nous avons placé notre foi en lui. La seule justice que nous pouvons faire valoir devant Dieu, c'est celle de Jésus-Christ, pas la nôtre. Nous n'avons aucune justice à faire valoir. Tant de fois, nous avons enfreint les commandements de Dieu. Et tout à l'heure, Samuel aussi l'a rappelé. Et c'est une réalité, et il faut le reconnaître, et il faut se voir ainsi. Il faut se voir, oui, moi je peux l'admettre, je suis un voleur. J'ai déjà commis des vols dans ma vie, ne serait-ce que par quelques exemples que j'ai cités précédemment. Je ne suis pas juste devant Dieu. Seul Christ est juste. Et j'ai besoin de sa justice pour me tenir devant Dieu, pour pouvoir me dire qu'il me déclare juste. Et alors que je commence à comprendre cela, je comprends aussi ce qu'implique l'évangile, ce qu'il faut changer pour vivre dans la justice précisément. Ce qu'il faut changer dans mon attitude, dans mes habitudes, peut-être même dans mes fréquentations, voire même mon travail. Peut-être changer de travail. Si je veux obéir à ce 8e commandement, c'est tout simplement parce que j'aime mon Seigneur et que je veux faire ce qui lui plaît, ce qui correspond maintenant à la nouvelle créature que je suis. Je ne cherche pas par ce moyen-là à gagner mon salut. Christ l'a déjà obtenu pour moi. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui lui plaît ? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, si ce n'est pas voler ? Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui volait, autrefois, cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Non seulement les chrétiens cessent de voler, parce que c'est contre la loi de Dieu, mais ils vont plus loin. Ils travaillent de telle sorte qu'ils aient de quoi aider les nécessiteux. Est-ce que nous travaillons en pensant à cela ? Certains d'entre nous travaillent beaucoup. Est-ce que vous le faites pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin ? Et je vous avoue que c'est un verset qui m'a marqué la première fois que je l'ai compris, que j'ai compris ce que le Seigneur attendait de nous. Et c'est vrai que d'emblée, quand moi-même j'ai commencé à travailler, auparavant en tant que professeur de français et maintenant en tant que pasteur, j'ai pris l'habitude de mettre de côté pour pouvoir donner à celles et ceux qui ont vraiment besoin, beaucoup plus que moi. Régulièrement, vous le savez comme moi, il y a des appels aux dons pour soutenir ceux qui sont touchés par des catastrophes naturelles, pour soutenir ceux qui sont touchés par la guerre ou d'autres circonstances désastreuses. Et dans une certaine mesure, nous savons qu'il y en aura encore. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et si je ne vole pas, est-ce que je donne ? Est-ce que je donne à celles et ceux qui ont moins que moi ? Et je peux vous assurer que sur cette terre, il y en a beaucoup qui ont moins que nous. Cela a un rapport avec la gestion de l'argent que Dieu m'a confié. Et assurément, il veut que j'en fasse un bon usage, en particulier pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et Jésus nous enseigne à nous en préoccuper. Et c'est le sens de ce que l'apôtre Paul dit au responsable d'Éphèse. On le lit en Actes chapitre 20, verset 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Mais voyez dans quel contexte Jésus dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » pour aider ceux qui en ont besoin. C'est là que se trouve vraiment la joie de donner. Parce qu'eux ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Travailler pour soutenir les faibles, avoir le souci des pauvres, c'est bien la preuve d'un changement de cœur qui n'est plus porté sur le bien d'autrui ou sur ses propres biens, mais qui est porté sur les besoins de mon prochain. Dès lors que j'ai cette mentalité inspirée par le Seigneur de travailler pour avoir de quoi aider celles et ceux qui sont dans le besoin, je manifeste bien là que mon cœur n'est plus porté sur les biens, mais sur les besoins de l'autre. N'est-ce pas à cet égard que le Seigneur s'est donné ? En tenant compte de nos besoins, notre besoin de pardon, notre besoin d'être sauvé, notre besoin d'être radicalement transformé. De Corinthiens chapitre 8, verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Notre Seigneur s'est laissé dépouiller. Il a subi l'humiliation jusqu'à la torture de la croix. Il s'est fait pauvre de cette manière afin que nous obtenions la vie et même la gloire avec lui. Telle est notre richesse partagée avec notre Sauveur. Il s'est fait pauvre pour qu'on puisse partager sa gloire. Et justement, et je voudrais terminer là-dessus, parlons de richesse. Celui ou celle qui vole le fait dans certains cas pour survivre, parce qu'il a faim. Mais parfois, ce sont les riches qui volent pour amasser davantage. Ce sont parfois les gens aisés qui commettent les plus grandes injustices en transgressant le 8e commandement. Ce n'est pas forcément ceux qui manquent, mais ceux qui ont déjà tout. Mais mon propos n'est pas de m'en prendre aux riches, mais plutôt à ce qui se trouve dans notre cœur et qui peut être cupide. Sur la question des biens matériels, Jésus n'a rien contre le fait de posséder, mais il a quelque chose à dire sur le fait d'amasser des trésors sur la terre. Et c'est l'objet de son propos dans le Sermon sur la montagne lorsqu'il dit en Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus dit à celles et ceux qui veulent le suivre qu'il y a bien plus que les trésors de ce monde. Que leur cœur ne doit pas se trouver dans les richesses terrestres qui sont finalement à la portée des voleurs, mais dans les richesses inatteignables par les cambrioleurs. Des richesses, des trésors que personne ne peut nous enlever, ce qui est au ciel, et qui ne compte pas pour les gens de ce monde, mais qui doit être notre préoccupation première. Oui, c'est le royaume de Dieu que nous cherchons. C'est la présence, la communion du Seigneur que nous chérissons. C'est le salut pour lequel nous ne cessons d'être reconnaissants. C'est l'espérance qui nous fait détourner nos regards de ce qui brille ici-bas pour nous attacher à tout ce qui brille dans le ciel. Là où Jésus siège en roi à la droite de Dieu. C'est là que se trouve notre trésor. Oui, très clairement, ce qui va m'aider à ne pas voler ici-bas, c'est de considérer les trésors qui m'attendent et qui me sont promis comme mon héritage. C'est en effet ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première lettre, 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Et le verset 4, « Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Cet héritage qui nous est réservé, qui est dans le ciel et qui ne peut pas se corrompre ni se détruire, et qui n'est pas à la portée des voleurs. Il vous est réservé au ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. À cause du trésor qu'est Jésus pour moi, ni l'argent ni l'or n'ont finalement d'attrait pour moi. J'aimerais Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée et c'est pourquoi je ne commettrai pas de vol. Mon trésor est au ciel et c'est là que sera aussi mon cœur. Je conclus. Pour parler de ce huitième commandement, nous avons commencé par l'amour du prochain, qui résume la loi. Et nous avons terminé par l'amour pour Dieu, qui est le plus grand commandement. Tu ne commettras pas de vol. Tu respecteras la propriété des biens de chacun. Tu ne voleras ni l'État, ni Dieu. Tu restitueras ce que tu as volé. Tu travailleras pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Tu feras du royaume de Dieu et du Seigneur lui-même ton trésor, de telle sorte que tu n'auras même pas envie d'amasser des trésors sur la terre. Le Dieu qui nous commande de ne pas voler est aussi le Dieu qui s'est entièrement donné, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alors demandons à ce Dieu de transformer notre cœur par l'action puissante de son esprit, en sorte que celui ou celle qui volait cesse de voler. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, c'est à toi que nous nous adressons et nous voulons te remercier pour ta parole, pour cette révélation véridique que tu nous as laissée. Merci parce que, avant toute chose, tu nous montres notre véritable état, notre véritable condition. Le fait qu'effectivement, nous avons enfreint peut-être plus d'une fois à ce huitième commandement. Et nous le reconnaissons et nous le confessons et nous te demandons pardon. Pardon parce que c'est toi qui as donné cet ordre et que nous n'avons pas écouté. Pardon parce que nous avons aussi lésé notre prochain de cette manière-là, ou peut-être une instance supérieure. Seigneur, tu connais la situation de chacun d'entre nous. Et ce n'est pas à moi d'en juger. Et moi-même, Seigneur, je regarde à ma propre situation et je veux me placer devant toi, non pas comme un voleur, mais comme un homme qui sait donner, qui sait être généreux, parce que, Seigneur, toi, tu t'es donné à nous. Tu ne t'es pas retenu, tu n'as pas retenu ta richesse, mais tu es venu. Oui, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir, afin de nous permettre de recevoir un héritage, certes que nous ne méritons pas, mais qui est un héritage au-delà, tellement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et c'est cet héritage-là que nous voulons chérir, Seigneur. Oui, accorde-nous d'avoir ce désir d'amasser des trésors dans le ciel, de pouvoir attacher du prix à ce qui a du prix à tes yeux, et d'avoir aussi une sagesse pour pouvoir bien gérer les biens que tu nous as confiés. À la fois, Seigneur, pour pouvoir soutenir toute œuvre qui irait dans le sens de l'avancement de ton royaume, mais aussi pour aider celui ou celle qui est cruellement dans le besoin. Oui, change notre cœur, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Inspire-nous de bonnes œuvres, Seigneur, en particulier pour la semaine qui est devant nous. Et montre-nous, Seigneur, ce qu'il serait juste de faire aussi dans les cas où nous devrions restituer. Et tout cela, nous le plaçons entre tes mains et nous demandons ton aide par ton esprit. Amen.